André Glucksmann, sauf qui pense.
Ce que je pense, finalement, c'est que l'humanité n'a fait que évoluer entre différents pires, entre différents maux.
De l'intellectuel, le public attend qu'il construise des représentations et les médias construisent aux intellectuels des réputations. Ainsi, on a inventé l'école de Brive pour des écrivains de Corrèze qui n'en pouvaient mais qui devaient illustrer la bonne vieille France franco-française. Personne n'a parlé les jours passés de la disparition de leur éditeur, Jacques Pochemort. À l'autre bout du spectre, et à peu près à la même époque, il y eut les nouveaux philosophes à qui était assignée la mission d'intervenir aux quatre coins du monde contre toutes les formes du mal. Englobé bon gré mal gré dans ce groupe hétéroclite, Glucksmann a taillé son chemin à sa façon. Il était attaché plus que les autres nouveaux philosophes, peut-être au rationalisme cartésien. Descartes, c'est la France, assure un de ses livres. Son maintien ensuite dans une situation de veilleur perpétuel n'a pas été sans l'isoler progressivement, mais c'est cette tenue constante aussi qui empêcha qu'on l'oublie. Il était toujours une belle figure, têtue dans ses colères et s'en laissant peu distraire par des écrits qui lui auraient fait faire un pas de côté. Si on lui connaît des textes sur le western. Dans le film du mouvement intellectuel contemporain, il ne jouait cependant pas le rôle du bon systématique. Le mieux que puisse faire l'homme, c'est le moins de mal possible. C'était le seul programme commun qu'il imagina.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec un dispositif un peu exceptionnel aujourd'hui, par ordre d'apparition en scène, André Sénic, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été militant des étudiants communistes, un petit peu à la même époque que André Glucksmann. Et maintenant, je vois que votre dernier texte, vous êtes agrégé de philo, vous avez enseigné à Bergson, c'est une édition...
C'est une édition résolument critique.
Du manifeste
du Parti communiste aux yeux de l'histoire.
Très bien.
Chez Pierre-Guillaume Deroux.
Vous avez participé à une aventure éditoriale récente de Glucksmann, la revue Le Meilleur des Mondes. Alors à propos de revue, Paul Thibault, bonjour.
Bonjour.
Vous avez longtemps dirigé la revue Esprit, dont le liminaire, quand vous en étiez l'animateur, était un manifeste anti-totalitaire. Et votre chemin a souvent croisé celui d'André Glucksmann. Et la plus jeune d'entre nous, c'est Galia Ackermann, bonjour.
Bonjour.
Qui ne connaît André Glucksmann que depuis
30 ans.
30 ans seulement, et qui l'a beaucoup accompagné ces dernières années. Vous avez ainsi ménagé de longs rendez-vous entre Glucksmann et Helena Bonner, la veuve de Sakharov, le roman du juif universel. C'est un texte qu'on peut lire. Il ne parlait pas souvent de son ascendance juive, des moments extrêmement difficiles de son enfance. Les parents passaient de Chernowitz en Allemagne, d'Allemagne en Autriche, d'Autriche en France en 1937. L'enfance cachée a suivi et bien d'autres drames après la Deuxième Guerre mondiale encore. Premier moment, on va faire des séquences, on est moderne, André Sénic.
Résolument.
Oui, bien sûr. Premier moment, les étudiants communistes.
Alors, moi j'ai rencontré pour la première fois André Glucksmann en 1956, au moment de la création de l'Union des étudiants communistes par le Parti communiste. Il représentait le cercle des prépas de Henri IV. Et il était déjà dans une position de dissidence, puisque au lieu d'accepter l'idée que l'union des étudiants communistes devait être par principe sur les positions du parti, il revendiquait le droit à l'erreur et à l'indépendance de pensée par rapport au parti. Moi qui étais stalinien, je trouvais ça totalement incohérent, impensable, mais c'était quand même la première fois que j'entendais quelqu'un qui s'autorisait à penser librement, au sein de la mouvance communiste, et pas en cachette. C'était quelqu'un qui... Alors, sur le coup, moi, j'ai été très réfractaire, mais enfin, ça a été quand même ma première expérience qu'on pouvait l'ouvrir au sein même du mouvement communiste.
Alors, vous êtes resté un peu plus longtemps au Parti communiste, vous étiez ce qu'on appelait un Italien critique de l'intérieur. Lui est passé un moment au maoïsme. Son premier texte, il est assistant de Raymond Aron, comme Pierre Bourdieu l'a été aussi, lui permet de passer à la télévision dès mars 68, avant le mouvement de mai, à propos d'un livre qui s'intitule « Le discours de la guerre » ou à partir de l'analyse de la guerre du Vietnam, il réfléchit sur des thèmes du genre Par la guerre passe beaucoup de découvertes. La guerre permet aux peuples de surmonter leurs contradictions, etc.
Il n'y a pas de politique qui soit planifiable sans quelque philosophie. Il n'y a pas de philosophie qui ne soit politique. La théorie, il y en a partout. J'ai quand même essayé quelque chose. C'est d'éviter les jargons spécialisés. Alors, en ceci, j'ai un problème non pas d'écriture, mais de non-écriture. C'est-à-dire que je ne tiens pas du tout à écrire comme un spécialiste de l'histoire de la philosophie ou des éditoriaux des journaux ou Dieu sait quoi encore. Mais c'est une activité strictement négative, c'est-à-dire se garder du jargon.
Éviter le jargon, c'est bien pour être lu par certaines personnes, pas seulement par les professeurs de philosophie.
À la limite, ce serait même peut-être une manière de ne pas être lu par les professeurs de philosophie. Mais certaines personnes, incertaines personnes, très exactement, ou personnes incertaines, personnes qui prendront plaisir à lire, ou qui seront intéressées, ou qui auront douleur, l'ignore.
Alors, peut-être sa position sur la dissuasion nucléaire, la stratégie, tout ça, n'a-t-il beaucoup changé, mais Paul Thibault, il y aura toujours ce thème récurrent chez lui. On s'adresse à un nombre assez grand de personnes, on n'est pas dans le cénacle universitaire.
C'est évident, mais il a aussi rompu en même temps avec le cénacle communiste classique sur un point central, enfin c'est le point de 68, c'est quand même 68 l'expérience initiale pour lui, en dépit du discours de la guerre qui précède un peu, si vous voulez. C'est que 68 c'est la fin de la prétention communiste d'achever l'histoire, de conclure l'histoire. Autrefois la société idéale était promise à la fin. À la fin de l'histoire, et les communistes étaient censés la préparer, même de loin. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit premièrement que ceux qui préparent, ils préparent rien du tout, parce qu'on est un peu éveillé quand même depuis une quinzaine d'années, depuis 56, essentiellement, si vous voulez, sur la réalité de l'Union soviétique, si vous voulez. Et on s'aperçoit en 68 que la révolution, c'est maintenant, pour transposer une formule beaucoup plus récente. Là, c'est changer maintenant des rapports d'autorité, etc. C'est pourquoi cette génération, ça lui est monté à la tête. Enfin, elle a cru pouvoir embrasser la révolution directement et non pas l'attendre, si vous voulez. Alors ça, c'est le point de départ de Glucksmann.
Et
ça.
Après 68.
Est-ce que je peux dire un mot, peut-être ? C'était une révolution qui ne visait pas la prise du pouvoir. Ça, c'est fondamental. C'était une révolution à vivre sur le moment.
Et après 68, j'en viens à vous, puisque vous prenez la parole, André Sénic. Vous aviez lu Morin, Fechte, Souvarine, etc., etc. Et vous avez lu L'archipel du Goulag. C'est au milieu des années 1970 que, soudain, pour ceux qui étaient critiques sur le Parti communiste, après la preuve par le parti, il y a eu la preuve de l'erreur par l'enfer. Vous l'avez vu comme ça ?
Oui, non mais j'ai surtout vu que...
L'enfer du Goulag, je veux
oui,
dire.
Oui, je dois à Glucksmann, c'est de s'être autorisé à aller jusqu'au bout de sa pensée, jusqu'au bout de sa critique, et à dire qu'on pouvait être l'adversaire du communisme. Alors que jusque-là, anticommuniste, c'était un gros mot. Un anticommuniste, avait dit Sartre, un anticommuniste c'est un chien, bon... Et là, c'était tout à fait nouveau, et ça a été complètement libératoire. Moi, je dois ça à Glucksmann. Je suis pas le seul à devoir à Glucksmann le droit de penser jusqu'au bout l'anti-totalitarisme.
Vous aviez quitté le parti avant le milieu des années 70.
J'avais quitté le parti, mais j'étais anti-stalinien seulement. J'étais anti-stalinien en 68. Je suis devenu anti-léniniste, mais malgré tout, je me croyais révolutionnaire encore, d'une manière ou d'une autre, un peu plus libertaire si on veut, mais j'avais pas abandonné l'idée qu'il fallait faire la révolution.
Réception contrastée, tumultueuse de l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn au milieu des années 1970, et puis grand succès public de La cuisinière et Le mangeur d'hommes, puis des maîtres penseurs, il est souvent invité à apostrophe, 1977.
Écoutez, franchement, en France, si les intellectuels continuent à s'attaquer réciproquement et à s'envoyer des livres qui, de toute façon, ne tirent que 10 000 exemplaires, alors ça ne présente strictement aucun intérêt. Il faudrait quand même voir le rôle des intellectuels. Les intellectuels, c'est 25% de la population. C'est des gens qui contrôlent la circulation des idées. C'est des psychothérapeutes, c'est des instituteurs, c'est des professeurs, c'est tout ça, les intellectuels. Et alors, je dis qu'aujourd'hui, ce qui est important pour les intellectuels, c'est de penser ce qui s'est passé dans ce siècle. Il y a quand même eu assez de massacres. Il y a eu des goulags et il faut en parler. Et c'est terrorisant, les goulags. Hein ? Toutes les élites politiques de gauche refusent qu'on parle de la Russie, refusent qu'on parle des goulags qui se trouvent en Chine ou n'importe au Cambodge. Quand les Américains envoyaient du napalm sur le Cambodge, j'ai gueulé, j'ai manifesté dans la rue. Hein ? Et vous croyez que maintenant les cadavres des Cambodgiens, quand ils sont tués à coups de mitraillette au lieu d'être tués à coups de napalm, c'est pas terrifiant ? C'est pas terrorisant et on n'en parle pas. Et est-ce qu'on en parle des ouvriers polonais qui sont dans la rue, qui manifestent, qui sont torturés, et des intellectuels polonais qui sont en prison? Est-ce qu'on en parle? Absolument. C'est ça le problème.
Absolument d'accord. Et des intellectuels,
actuellement, les intellectuels en Russie, aux États-Unis, en Chine, sont des dissidents. Ils sont contre les pouvoirs. Ils disent très nettement qu'il s'agit d'être du côté des opprimés, contre les États oppresseurs.
Galia Ackermann, vous ne viviez pas encore en France. Je ne sais comment vous voyiez le débat intellectuel français à l'époque et le rôle de Glucksmann. Le mot « dissident » auquel il a été toujours attaché, c'était une manière de construire des figures de résistance qu'on trouvait d'ailleurs aussi bien en Tchécoslovaquie. Il y a eu le grand manifeste de Patocha, la charte 77 à laquelle il était très attaché peu d'années après.
Vous savez, je suis arrivée en France en effet un peu plus tard, en 84, et j'ai presque aussitôt connu André Glucksmann. Et c'était encore une époque, même quelques années après la publication de l'archipel du Goulag, où il y a eu toujours beaucoup de résistance à l'idée de comparer les deux totalitarismes, de dénigrer systématiquement le régime communiste, etc., etc. J'ai travaillé dans une organisation qui s'appelait l'Internationale de la Résistance, qui a été dirigée par quelques dissidents russes, comme Vladimir Maximov, comme Vladimir Bukovsky, etc. Et c'était une époque absolument incroyable où plusieurs intellectuels français ont fait vraiment la jonction avec les dissidents russes qui se trouvaient en France, en Europe, aux États-Unis et aussi en Russie.
Alors vous êtes beaucoup consacré à ça, Paul Thibault. Vous n'allez pas dire le contraire. En même temps, rétrospectivement, le concept de totalitarisme contre lequel il faut s'arc-bouter, ça provoque de curieuse réunion depuis la CFDT jusqu'à la bien revue sûr. Commentaire de Jean-Claude ouais. Casanova, en passant ouais. Ouais. Par vous, Esprit, oui, et les historiens d'aujourd'hui ont tendance à dire que c'est un arc un peu acrobatique. Et non, c'est pas une pensée qui peut avoir un héritage.
C'est pas un arc acrobatique, mais enfin, simplement l'antitotalitarisme est une pensée nécessaire, mais insuffisante, si vous voulez. Quoi. Bon, si vous voulez, là, dans cette période-là, on a mis fin à ce que l'appelle Flaubert disait l'ineptie de vouloir conclure, enfin, d'avoir le dernier mot de l'histoire. Je trouve cette formule magnifique. Mais on est peut-être tombé dans une autre ineptie où dont on n'est pas sorti, qui est l'ineptie de vouloir être innocent. L'ineptie de congédier le mal. Autrefois, l'utopie communiste était une utopie du bien, réaliser le bien. Nous savons que c'est impossible, mais nous essayons de nous débarrasser complètement du mal, en particulier de nous débarrasser de la guerre. Et là, il y a une sorte d'impasse
tout
du
même.
Totalitarisme qui ne, dans la mesure où il ne débouche pas sur une pensée réaliste de la démocratie, de l'invention démocratique.
Tout de même, il y a eu ce moment de résistance qui a été évoqué bien longuement sûr. Dans le journal tout à l'heure, 1979, ouais. Le sauvetage des potes people, et puis Glucksmann qui, sur le perron de l'Élysée, réunit son vieux maître Aron et Sartre pour demander et obtenir du président de la République de l'époque qu'il accueille davantage de réfugiés.
Oui, on a accueilli quelques réfugiés, mais ce qui se pose maintenant concernant les immigrants, c'est une question tout à fait actuelle. On voit bien qu'il suffit pas de proclamer une bonne intention pour qu'il y ait une politique qui suive. Les immigrants, il faut être capable de les accueillir, il faut être capable de les intégrer. Donc il faut une conception politique positive de l'état de la nation. Alors c'est toutes sortes de choses, évidemment, qu'une certaine politique réduite à la dénonciation du totalitarisme et du mal en général, une attitude que je dirais droite l'homiste, ignore complètement. Et c'est ça le problème. Et je pense que Glucksmann a toujours buté là-dessus.
Néanmoins,
certaines incertitudes politiques, d'ailleurs,
on va y venir.
On va y venir. Parce que ce sont les miennes aussi. Hein.
Néanmoins, dans les années 70, on avait l'impression qu'il y avait un appétit, un regain pour la pensée politique. C'était le moment Giscard et de l'opposition à Giscard. Puis va venir le moment Mitterrand. Avec le programme commun signé par les partis de gauche, même si il est vite remis en question. Alors ça, c'est une surprise pour vous, André Sénic.
L'Éricain en Amérique et la France en République. L'Éricain en Amérique et la France en République. Coca-Cola et whisky, non. Messieurs les Yankees. Eisenhower et ses banquiers veulent la guerre au monde entier. Eisenhower et ses banquiers veulent la guerre au monde entier. Plan Marshall et pacte atlantique, la guerre au peuple soviétique. Nous ne marcherons pas, nous ne serons pas vos soldats. L'Éricain en Amérique et la France en République. L'Éricain en Amérique et la France en République. Coca-Cola et whisky, non, messieurs les Yankees.
C'est évidemment pour mettre en garde contre l'union de la gauche qu'au moment où elle va arriver au pouvoir, vous-même, André Sénic, et votre camarade Patrice Gauthier reprenez les grands standards du Parti communiste de l'époque de la guerre froide. C'est vous là qu'on entendait. Vous, vous n'y croyiez pas à l'union de la gauche. Le moment Mitterrand va d'ailleurs décevoir très vite André Glucksmann, qui manifestait un grand scepticisme d'ailleurs à l'égard des possibilités politiques d'un État, et qui va publier La Bêtise en 1985. Un livre avec le poing et la rose ébréchés et fanés en couverture.
Personnellement, j'ai pas été déçu parce que j'ai pas voté pour Mitterrand en 81. Et le disque qu'on a fait n'était pas dirigé contre l'union de la gauche, c'était une manière de faire mesurer à des gens qui n'avaient pas vécu cette période des années 50, où la bêtise atteignait quand même des sommets jamais égalés, de faire connaître par la sensibilité de la chanson combien nous avions pu être stupides, fanatiques, dévots, et tout ça avec beaucoup de jouissance. Et le disque a été chanté comme on le chantait 15 ans plus tôt, quand on y était vraiment. Et il a même été vendu à la fête de l'UMA, sans que les gens de la fête de l'UMA s'aperçoivent que c'était une dérision.
C'est dire. Mais alors, reprenons le fil, après ce moment de distraction de votre réflexion, Paul Thibault. Vous sembliez dire qu'allait éclater, dans les années 1981, certaines des difficultés auxquelles se heurtait Glucksmann, qui pensait, j'allais dire, plus en dissident qu'en citoyen.
Bien sûr, bien sûr. De toute façon, l'union de la gauche a été un éteignoir de la pensée, parce que ça, autrefois, enfin, Morin avait eu cette formule, les socialistes et les communistes pratiquent la coprologie réciproque, c'est-à-dire que chacun se nourrit des cochonneries de l'autre, enfin, un bon français, si vous voulez. Alors, ils ont remplacé la coprologie réciproque, réciproque, oui, par l'absolution réciproque. Avec le programme commun, les communistes se sont trouvés innocentés de leur passé stalinoïde ou stalinien, les socialistes ont évidemment oublié le déshonneur de la guerre d'Algérie et de l'organisation de la torture par un ministre socialiste que nous avons connu dans notre jeunesse. Alors bon, ça c'est pas des conditions bonnes pour une réflexion politique exigeante. Alors voilà, réflexion politique exigeante, elle devient évidemment nécessairement marginale, si vous voulez, mais elle se trouve en dehors de la pratique politique. Et c'est bien, elle est donc en exil d'un certain côté par rapport à la pratique politique.
Et puis se pose de nouveau dans les années 1980, on l'avait un peu oublié, la question de la guerre, avec notamment les événements qui font boule de neige dans les Balkans, qui aboutissent à la dissolution de l'ex-Yougoslavie et à une intervention de l'OTAN contre la Serbie de Milosevic. Kalia Ackerman est maintenant à RFI, hein, je crois, à ce moment-là. Oui. Vous allez entendre la voix de Stanko Serovic qui tentait de continuer à diriger le service serbo-croate de RFI qui éclatait en même temps que le pays d'où venaient les ressortissants journalistes. Il est très amer des bombardements de l'OTAN de 99.
je pouvais entendre dans la nuit les missiles qui passaient à côté pour aller frapper deux endroits à côté de Belgrade, un est Batajnica et l'autre s'appelle Pančevo. Et on voyait bien sûr le feu immense. Et lorsque les missiles passent, c'est un bruit assez terrible. Il y a les fenêtres qui vibrent, etc. Donc les familles, les enfants, etc., ils ont peur.
Les gens sont un peu stupéfaits, ils ne savent pas ce qui leur arrive. Ils attendent, ils espèrent que ça va s'arrêter à tout moment. Et c'est peut-être un peu éprouvant pour les enfants. J'ai un enfant de 2 ans qui se réveille et qui dit « Maman, je ne veux plus entendre les sirènes ». Donc c'est un peu traumatisant pour les enfants.
Donc c'est tout à fait possible que ce bombardement provoque une sorte de catastrophe humanitaire plus grave qu'on ne l'a eue jusqu'à maintenant. Ce genre de guerre que les Américains mènent maintenant, qu'ils appellent là le risque zéro, c'est-à-dire on frappe de très loin par des armes très très sophistiquées. Ça aussi, ça donne une impression d'une guerre d'une certaine manière indigne, s'il peut y avoir la guerre qui a une certaine morale, la morale de la guerre.
Guerre indigne, guerre juste. Alors André Sénic, vous trouviez que c'était une guerre juste que celle menée par l'OTAN pour la défense des Kosovars contre Belgrade de Milosevic?
Oui, oui, je reconnais que le spectacle qui nous était montré des Serbes exterminant ou enfin terrorisant des populations qui étaient plutôt démunies faisait qu'on adhérait spontanément à cette idée. En plus, a priori, on était plutôt pro-serbe en France. On n'avait pas de tradition favorable aux Croates à cause de la guerre mondiale. Mais ce spectacle-là faisait que l'idée de la non-intervention était insupportable. Et on a entendu tout à l'heure André Glucksmann parler des dissidents par rapport à l'État. Nous n'avons pas de respect de la souveraineté des États. Et pour moi, si vous voulez, si un État écrase une partie de sa population, il n'y a pas de raison de le ménager au nom de la souveraineté des États. La seule souveraineté qui compte, c'est celle des individus. Alors maintenant, l'inconvénient quand on s'engage, c'est qu'on peut se tromper, c'est qu'on peut ne pas avoir une vision, c'est qu'on est dans l'éthique de la conviction et on n'est pas peut-être suffisamment dans l'éthique de la responsabilité.
Paul Thibault.
Oui, c'est un point de vue, à mon avis, très partiel, parce que on peut ne pas respecter la souveraineté des États quand ils frappent leur propre population, c'est évident, mais de toute façon, la responsabilité, c'est de régler les problèmes politiques qui causent la guerre. Justement, on a en ex-Yougoslavie, on n'a réglé aucun problème politique. On a prétendu, on a commencé par faire de l'humanitaire. Ensuite, on a fait de l'interposition, ça a donné Srebrenica. Et pour en finir, on a frappé de très haut, comme dit l'autre, en employant une espèce de force de police internationale. Mais on n'a pas réglé la Bosnie est toujours un pays complètement divisé. On a été incapable de tracer une nouvelle frontière, par exemple, si vous voulez, entre les Serbes, les Croates et les Bosniaques, si vous voulez. Alors il y a le moralisme et la nécessité de ne pas être du côté du mal, qui est évidemment une bonne chose, conduit non pas à des guerres, mais à des opérations de police internationale, comme actuellement d'ailleurs du côté de la Syrie, et dont on ne maîtrise absolument pas les effets.
Mais
l'éthique de responsabilité, elle existe. La politique, c'est de regarder en face les situations et de les traiter.
Vous n'êtes pas étonné qu'un ancien homme d'extrême gauche, comme André Sénic, se retrouve sur des positions qui peuvent être proches de celles des néo-conservateurs américains? Ça vous étonne pas, ça?
Ah non, c'est pas une question. Il n'est pas néo-conservateur américain. Il est un peu dans le moralisme abstrait. À mon avis, c'est une toute autre position.
J'ai dit qu'il fallait tenir compte de l'éthique de responsabilité.
Les néo-conservateurs américains sont des gens, quand il s'agit des intérêts de leur pays, des gens tout à fait réalistes. Hein. Il n'est pas de ce côté-là.
André Glucksmann disait que la fin du communisme n'était pas, Galia Ackermann, évidemment, la fin de l'histoire, et il se souciait des nouvelles formes que les puissances de gouvernementalité, comme dirait son contemporain Foucault, pouvaient imaginer. dans le monde post-communiste. Alors, c'est à ce moment-là que vous l'avez suivi de près, l'accompagnant à Moscou, se passionnant comme lui pour la question de la Tchétchénie ou celle de la Géorgie.
Absolument. Ce qui était étonnant chez André, c'est qu'il a très vite décelé le potentiel autoritaire de ces nouveaux régimes, et en particulier du régime russe. Donc ça a commencé après l'approbation totale de la perestroïka, les premières années Yeltsin, avec la première guerre de Tchétchénie. Et je pense qu'il n'y avait pas de personne plus passionnée en France qu'André pour se prononcer contre la barbarie de cette guerre, les bombardements de la population civile.
Vous l'avez vu participer à une table ronde organisée par l'agence TASS et réussir peut-être à retourner la salle même sur la question de la Tchétchénie.
C'était assez extraordinaire. On est arrivé en petit comité. C'était quelques mois après l'arrivée de Poutine au pouvoir, donc il n'a pas encore tout vissé. Et donc, nous nous sommes inscrits à cette table ronde. On est arrivé en petit groupe à Moscou. Il y avait aussi Bernard-Henri Lévy, il y avait Romain Goupil. Et donc, André, pendant la table ronde, on voulait pas lui donner la parole. Il a demandé juste d'intervenir dans une réplique. Il se lève et il dit... Et il m'a prévenu, parce que je le traduisais, il m'a dit « Quand je me lève, tu te lèves tout de suite et donc tu me suis de très près. » Et il dit « Je propose une minute de silence en mémoire et hommage aux victimes civiles tchétchènes. » Et dans la salle, il y avait des militaires haut gradés, y compris le chef des opérations militaires en Tchétchénie, des journalistes pro-gouvernementaux, des scientifiques, des chercheurs, etc. Mais il y avait aussi des gens de l'opposition, si l'on peut dire. Et donc, les gens commencent à se lever. Peu à peu, nous nous levons, nous deux, les premiers. Ensuite, les autres membres de notre petite bande. Et ensuite, la salle, peu à peu, peu. Et le dernier, le commandant en chef, Manilov, qui se lève. Et qui ne comprend même pas ce qui lui arrive. Et après, dans l'après-midi, nous sommes revenus. Il a dit « Ah, aujourd'hui, on m'a moralement violé. »
Dites-moi, c'est grâce à l'affaire de Tchétchénie que peut-être Glucksmann est revenu de certains de ses points de vue sur Nicolas Sarkozy, parce qu'il a rompu avec Nicolas Sarkozy, pour qui il avait demandé de voter en 2007, à cause de ses liens avec Vladimir Poutine.
Absolument. Je crois qu'il avait ce droit à l'erreur, si j'ose dire. Vous savez, Nicolas Sarkozy, pendant la campagne électorale, avait des positions très fermes sur la Russie. Et je dois dire, même, bon, on peut le dire aujourd'hui, j'ai participé à un petit déjeuner avec Nicolas Sarkozy avant qu'il ne prenne le pouvoir pour le briefer sur la Russie avec quelques autres confrères. Et à ce moment-là, il n'était absolument pas pour Vladimir Poutine.
Bon, je voulais quand même poser la question parce qu'autrement, les auditeurs m'auraient reproché de l'avoir tu, mais nous avons essayé, tout le reste de l'émission, vous avez remarqué, de garder une certaine hauteur qui est due à la personnalité d'André Glucksmann, dont on vient d'apprendre ce matin la disparition. Merci à vous, Galia Ackermann, à André Sénic et à Paul Thibault.